France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Avec son spectacle Imara, ici peut-être, il nous parle du Groenland, de la banquise, mais surtout de nos rêves de silence et d'idéal. Le trampoliniste et artiste de cirque Mathurin Bolz sera dans les midis à partir de 13h. Et on commence, comme chaque jour, par deux exercices de critique, histoire de garder la forme. Au programme, deux films qui sortent en salle ce mercredi, Le Mage du Kremlin, adaptation du célèbre best-seller de Giuliano Daampoli par Olivier Assayas, qui nous embarque au cœur de la machine du pouvoir poutinien. Et puis, Net, cinquième film de la réalisatrice Chloé Zhao, qui nous donne à voir Shakespeare dans l'intimité de son couple face au deuil. Vous écoutez les midis de culture, mais bon, ça reste entre nous. Autour de la table, aujourd'hui pour parler cinéma, Sandra Onana, critique de cinéma au journal Libération, bonjour.
Bonjour.
Adrien Desnouettes, critique de cinéma, auteur et enseignant, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux.
What matters in Russia is your proximity to power.
Vadim Baranov was a visionary director. He became known as the new Rasputin.
I want to be part of my time, not just a witness.
Il faut arrêter d'écrire des histoires et commencer à créer la réalité. Nous devons inventer quelque chose de nouveau. La Russie a besoin d'un nouveau type d'homme politique.
Il est jeune, sportif. C'est un espion. Du KGB. Vladimir Poutine.
Ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir. Je ne peux pas être soumis à qui que ce soit.
Notre objectif, c'est le chaos. Nous allons infiltrer l'esprit des gens. Construire le mythe selon lequel les Russes ont pris le contrôle du monde moderne. Nous en sommes les maîtres.
Et nous y voilà, Le Mage du Kremlin, le best-seller de Giuliano Daampoli est adapté sur grand écran et c'est le français Olivier Assayas qui s'y est attelé. L'auteur italien avait d'ailleurs lui-même fait parvenir un exemplaire de son livre au réalisateur dès sa parution. Et le film reprend la structure de l'ouvrage, comprendre le pouvoir de Vladimir Poutine, ses structures, ses ambitions, en donnant la parole à celui qui les a créés, un homme de l'ombre, Vadim Baranov, joué ici par Paul Dano. Paul Dano est inspiré du vrai Vladislav Surkov. D'abord trafiquant, producteur de spectacles, à la faveur du capitalisme déchaîné des années 90 en Russie, il passe par la télé-réalité et devient le conseiller d'un Poutine qui n'est à l'époque qu'un sombre agent du KGB. Il en fera un tsar, incarné à l'écran par un Jude Law parfaitement terne. On commence avec un avis en quelques mots, Adrien Desnouettes.
Oh bah, c'est pas ce que j'appellerais du grand cinéma, je trouve pas que le film soit majeur, mais il m'a intéressé pour deux raisons. La première, c'est qu'il arrive à faire quelque chose de très difficile quand même, qui est de faire de la Russie des 30 dernières années le personnage principal. Mm-hmm. Et la deuxième, je mets l'accent là-dessus, c'est la performance de Jude Law en Vladimir Poutine, que j'ai trouvé vraiment bluffante. Je trouve même que c'est la meilleure performance de sa carrière.
Sandra Onana.
Non, moi j'ai trouvé que c'était un ratage sur les deux tableaux, celui du thriller politique un peu sexy et exaltant, et celui du récit des origines d'un tyran dans les coulisses du pouvoir. J'ai trouvé ça barbant des deux côtés.
Alors Adrien Desnouettes, on va y aller tout de suite. C'est vrai que Jude Law en Poutine, ça coule pas de source au départ.
Non, pas du tout. Mais après, c'est un peu la mode en ce moment. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de biopics sur des figures tyranniques, figures du pouvoir, des figures très très connues. On est dans l'époque du biopic, c'est ça l'académisme aujourd'hui. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlera de Hamnet, qui est un biopic sur Shakespeare. Bref, on est là-dedans. Donc, on s'en fiche un peu si ça ressemble ou pas. L'important, c'est qu'il y ait un sentiment de vérité, mm-hmm. tout bêtement, que l'émotion soit là. Je trouve qu'effectivement, la performance de Jude Law est franchement bluffante. Et notamment, et là, je vais être un peu dur et je vais un peu rejoindre Sandra Onana dans le fait que le film soit vraiment pas parfait. Notamment en contrepoint de la performance, hélas, très très tristounette et molle, et qui emporte un peu toute l'énergie du film de Paul Dano. Parce que Paul Dano, c'est évidemment, vous savez, ce Virgile qui vous ouvre les portes des coulisses, des marges de la Russie des 30 dernières années, parce qu'il la traverse, ce personnage-là. Et le problème, c'est que tout le film est englué dans l'absence totale d'énergie de Paul Dano.
On donne raison à Quentin Tarantino?
Bah franchement non, j'ai pas envie de lui donner raison parce que Quentin Tarantino, il attaque Paul Dano sur un très bon film qui est There Will Be Blood dans lequel je le trouve très bon parce qu'en fait on le fait crier et c'est un acteur qui n'a pas de voix. Le problème c'est que donc là c'était très bien dans There Will Be Blood de faire crier un acteur qui avait une espèce de non-voix comme ça. Ici le problème c'est qu'on essaie de se mettre dans le sillage de l'acteur Paul Dano. Donc en fait ça devient cette absence d'énergie qui fait un petit peu sa particularité d'acteur et là ça ne marche pas du tout. Mais j'ai vraiment envie de revenir quand même sur les qualités du film parce que là je viens de commencer sur quelque chose de très négatif.
Non, non, je demandais Jude Law, hein, donc
oui, oui, oui,
ça,
non,
c'était
mais
bien.
Voilà, donc par opposition avec Paul Dano, le personnage de Jude Law est vraiment, enfin le Poutine de Jude Law est vraiment réussi. Mais là où le film est encore plus réussi, et ça va aussi parler de la performance de Jude Law, c'est sur cet aspect documentaire. Pour moi, c'est vraiment d'abord un documentaire. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il se lance. Il se lance avec une espèce de gros prétexte qui marche pas très bien, d'une interview d'un Américain qui vient interviewer ce fameux Baranov, et sur un prétexte complètement oublié en cours de récit. En fait, Baranov, on nous raconte sa vie, il nous raconte l'histoire de la Russie des 30 dernières années. Et en fait, c'est un documentaire dans un documentaire. Parce que chaque fois que Baranov va rencontrer des personnages, ça va donner lieu à des, ce que j'appellerais moi, des interviews dans un docu. En fait, c'est très discursif, c'est très bavard, mais pendant 2h36, franchement, je mets ça au crédit du film, je me suis très rarement ennuyé. J'ai trouvé ça intéressant. Le film est l'adaptation d'un livre qui est en fait une espèce de roman, quelque chose de très fictionné, mais qui est un roman à idées en fait, qui est un roman très théorique sur ce qu'est la Russie des 30 dernières années. Et ben franchement, ça m'a intéressé, j'ai même appris des choses. Alors je suis pas le spectateur le plus érudit sur la Russie, moi j'y connais rien, j'ai une espèce de fascination lointaine pour la figure du mal absolu qui est Poutine, je suis très français de ce point de vue-là. Et justement, le film a quand même appris beaucoup de choses. Par exemple, cette idée très claire et très simple qu'il arrive à marteler pendant tout le film qu'en fait, si la Russie de Poutine a réussi à faire barrage, disons, à l'uniformisation sur le modèle américain et donc capitaliste, c'est parce qu'elle a substitué la fascination pour l'argent par une fascination pour le pouvoir. C'est pas du tout une grande idée, mais c'est très bien montré, c'est très bien joué par Jude Law. Et là, sur ce volet purement documentaire, bah franchement, je suis séduit.
Sandra Onana.
Ça m'a laissé totalement sur le bas-côté. J'ai eu l'impression que précisément ça se voulait. En fait, effectivement, le livre, c'est une machine théorique. C'est plein d'aphorismes, d'explications, effectivement, sur comment on en est arrivé là, les origines des dérives nationalistes, autoritaristes de la Russie post-soviétique. Et dans le film, je trouve que les dialogues ne sont jamais convertis en situation cinématographique. J'ai eu l'impression de voir une succession de dialogues dans des bureaux, c'est un film de bureau, dans des taxis. J'ai eu l'impression de voir des gens se parler de manière avec beaucoup de sérieux en fronçant les sourcils. Et on sentait que l'ambition, c'était quand même de faire un truc un peu sexy et virevoltant à la Casino de Scorsese avec une voix off. C'est-à-dire au début, quand on nous jette dans la Russie après la chute de l'URSS, qui vit son moment d'ébullition hédoniste, qui découvre la société de consommation. C'est assez drôle, on nous explique qu'elle découvre la contre-culture grunge avec 10 ans de retard, donc les années 2000, c'est leur moment grunge, etc. Il y a ce personnage de maîtresse un peu vénéneuse qui est jouée par Alicia Vikander, que je trouve d'un cliché assez ahurissant. Et je trouve que ça prend pas cette énergie un peu exaltante du thriller. Moi, j'imputerais pas ça au jeu de Paul Dano. Je pense que vraiment, ça vient de la mise en scène, de la réalisation. Je pense que c'est très peu cinégénique, cette succession de dialogue. Et je trouve même qu'il y a un problème de regard, puisqu'on se disait, bon, bah, sans être des experts de Poutine, on est un peu fasciné de comprendre un peu ce que c'est que cette théorie du chaos, en fait, ce qu'on entendait dans la bande-annonce. Il faut qu'on soit tellement, qu'on infiltre l'esprit des gens et qu'ils pensent que c'est toujours nous, quel que soit l'événement qui arrive dans le monde, qu'ils estiment que c'est possible qu'on soit derrière, quoi. Il y a un truc comme ça. Et je pense qu'il y a un regard effectivement un peu fasciné qui, en fait, moi, ce qui me dérange quelque part, c'est que Poutine, effectivement, qui est ce qu'on croit placé au pouvoir comme un pantin, qui est ce jeune du KGB qu'on trouve assez peu expérimenté et donc manipulable, ça fait de lui un outsider. Dans notre âme de spectateur, on trouve ça romantique d'être du côté de l'outsider qui va finir par poignarder dans le dos tous les oligarques qui l'ont sous-estimé. Il y a un truc un peu comme ça de jubilation de ce côté-là qui, moi, me met mal à l'aise sur le plan politique et que je trouve même assez peu opérant sur le plan de la fiction, parce qu'encore une fois, c'est filmé de manière extrêmement terne.
Sur la façon de filmer, sur ces scènes de bureau, pour vous, Adrien Desnoyers, ça fonctionne?
Ouais, je rejoins complètement. Alors, non, je rejoins vraiment Sandra sur ce gros bémol qu'elle met sur la reconstitution et sur le plaisir, moi que j'appelle documentaire, en fait, à nous remettre dans une époque, à mettre en scène tout ça. Et elle a complètement raison, Sandra, je m'inscris dans son sillage, de parler de Casino et de Scorsese, parce qu'en fait, ça, c'est une convention de cinéma qui essaie de faire Assayas depuis très longtemps, qui est de faire un film sur un milieu ou un monde. C'est ce que je disais tout à l'heure, la Russie des 30 dernières années. Et effectivement, le maître absolu de ça, c'est Scorsese avec Les Affranchis et Casino. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle le modèle l'enfer de Dante. C'est-à-dire que vous avez un personnage qui est un passeur, un Virgile, qui vous prend par la main et qui vous dit, viens regarder, prends, circule dans tous les cercles de l'enfer. Et pour ça, il faut en fait une méticulosité, un sens de la précision incroyable, que n'a pas effectivement Olivia Sayas. Je pense même qu'il ne l'a jamais eu. En tout cas, pas dans le niveau de Scorsese. Mmh. Et puis, c'est pour ça que j'imputais quand même un peu la faute à Paul Dano, parce que Paul Dano, il est censé être ici. Ah, mais pardon, mais il est censé être ici notre Ray Liotta des affranchis, il est censé être notre Robert De Niro de Casino.
Alors,
c'est très dur. C'est très dur de le comparer à ces gens-là, mais juste, je termine là-dessus. En fait, il y a une scène qui pour moi est à l'image de ce qui ne fonctionne pas, c'est, il y a une scène de fête au début, justement, où on rencontre ce personnage joué par Alicia Vikander, qui est en fait une scène de fête à la française. Où on a l'impression qu'il suffit de claquer des doigts pour que tout le monde, sans alcool, puisse restituer la vérité d'une scène de fête. C'est pas vrai. Pour faire une vraie scène de fête, il faut faire comme Kechiche. 30 caméras, faire danser tout le monde pendant. Mais non, mais, comme Kechiche dans Mektoub, c'est-à-dire 30 caméras, faire danser tout le monde pendant 2 jours, que les gens soient fatigués, et là, vous avez une vérité. Et en fait, Scorsese fait la même chose dans d'autres contextes, c'est-à-dire que quand il fait le Copacabana, c'est une restitution documentaire qui est extrêmement précise, et ça, on ne l'a pas. Par contre, je terminerai là-dessus, il arrive très très bien à mettre en scène son Poutine. Et là, je sauve vraiment le film. Je trouve qu'à partir de 45 minutes, quand arrivent Jude Law et Poutine, bah pardon, mais ça marche. Et je repense à... Moi, il m'a fait penser à un film qui est The Apprentice, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui était en fait une espèce de masterclass de deux grands acteurs, Sebastian Stan et Jeremy Strong, qui jouaient un Trump complètement fictionné, un Roy Cohn complètement fictionné, mais parce que les acteurs prenaient le film, enfin, je sentais que les acteurs y mettaient énormément du leur, et je retrouve ça avec Jude Law. Et ça, c'est apporté au crédit du film, et donc un peu d'Assayas aussi.
Alors, Sandra Onana, elle avait une théorie.
Ah non, alors ma théorie sur Paul Dano, non, mais en fait moi je sens que ce personnage d'éminence grise, de conseiller de l'ombre, Paul Dano, il le joue en surjouant une espèce de force tranquille. Il a les mains dans les poches, il est dans sa datcha, il fait craquer du feu dans la cheminée. Et en fait ce surjeu de la force tranquille, moi j'interprète ça comme l'obsession du cinéma pour la banalité du mal, la manière dont il extrapole. Ça aurait dû être un film sur le mal, en fait, sur ce qu'est le mal. J'ai trouvé que c'était un film sur l'insipidité du mal, puisque à force d'être dans le sous-jeu, de montrer que c'est des petits mecs gris en costume dans des bureaux qui tirent les ficelles de l'ordre mondial à feu et à sang tel qu'on le connaît aujourd'hui, bah non seulement on se barbe, mais bah pardon, parce qu'on parle de Jude Law tout à l'heure comme si c'était une évidence, on n'a pas abordé l'éléphant dans la pièce, qui est ce film en langue anglaise, voilà, qui nous parle de l'âme russe à longueur de scène, qui nous parle de ce que veulent les Russes, de ce que serait que la psyché russe, de ce qu'ont vécu les Russes, et qui en fait... hyper hors sol, vraiment abstrait dans cette espèce de Russie globalisée où on fait pas la différence. Tu disais que c'était un narrateur américain qui venait faire l'interview du conseiller politique. Moi, je m'en suis pas rendu compte que c'était un américain, parce que tout le monde est américain de toute manière. Tout le monde parle anglais. Ils ont des chapkas, donc on est censé comprendre que c'est des Russes. Et on sait que c'est une convention de fiction, très usuelle dans les films hollywoodiens, etc. Là, il y a quand même quelque chose qui coince, dans la mesure où on prétend nous scanner, nous passer au scanner un pays et l'âme d'un pays ventriloqué par les Américains, en plus par l'ennemi héréditaire des Soviétiques, etc. Il y a quelque chose qui passe pas, quoi.
Là-dessus, derrière des nouettes sur l'anglais.
Non, mais je devine tellement toutes les compromissions auxquelles ils ont dû se heurter pour pas tourner en russe, qui est évidemment une absurdité totale. Mais d'une part, c'est pas le premier film qui tourne en anglais pour parler d'un autre pays. Je suis d'accord que le côté antagone absolu, la Russie, les États-Unis, ça fait vraiment mal aux oreilles. Mais franchement, c'est juste un truc de ressenti très différent de Sandra. Moi, ça a duré 2h36, et à part quelques scènes de teuf que j'ai trouvé vraiment qui sonnaient faux, le reste, j'étais complètement dedans. Et l'anglais ne m'a pas dérangé.
C'est tout pour le match du Kremlin? Allez. Ah oui, c'est bon. Allez, le match du Kremlin d'Olivier Assayas en salle aujourd'hui même.
Is it true? You know everything about a person by touching them here?
Not everything. He's got more inside of him than any man I've ever met.
Who are you looking for?
William Shakespeare.
Je n'ai pas la capacité d'attendre.
Les femmes de ma famille voient des choses.
Que vois-tu, Agnès?
J'ai vu un paysage. Des océans.
Vous avez des jumeaux, ma fille.
Des contrées inexplorées. Que voudrais-tu faire, Annette?
Je serai un des comédiens de papa.
Seras-tu brave?
Oui.
Seras-tu brave?
Je serai brave.
Quand serons-nous à nouveau réunis?
Le cœur de nos enfants bat. Il sourit, joue. Ne jamais oublier même un instant.
Maman!
Qu'ils peuvent s'en aller.
Maman!
Mon petit garçon.
Il n'a pas vécu.
On enchaîne donc avec Hamnet de la réalisatrice Chloé Zhao, tout récemment récompensée du Golden Globe du meilleur film dramatique. Et là aussi, il s'agit de l'adaptation d'un roman paru en 2020, celui de l'anglaise Maggie O'Farrell, qui, co-signe le scénario. Hamnet, c'est le prénom du jeune garçon né de l'amour de William Shakespeare et de sa femme Agnès. La disparition brutale de l'enfant, de la peste, plonge le couple dans la douleur et les éloigne l'un de l'autre. Hamnet, c'est le cinquième film de Chloé Zhao. Elle avait remporté 2 Oscars, souvenez-vous, c'était en 2021, avec Nomadland. On commence avec quelques mots d'abord, Sandra Onana.
Je dirais que je suis presque, je dis bien presque aussi, consternée que fascinée parce que le film s'autorise à falsifier vraiment du mythe Shakespeare avec l'aplomb du film historique, ce qu'il n'est pas. Et je dirais la subtilité du bulldozer du point de vue du chantage affectif.
Adrien Desnouettes.
Oui, je trouve que c'est un film qui n'a aucun intérêt à mes yeux, sinon celui de servir ses acteurs dans leur quête de prix. Et d'ailleurs, tiens, comme par hasard, c'est la saison.
Alors, Sandra Onana, consternation, fascination, pour l'instant c'est presque à égalité, vous disiez.
Non, ce qui est vraiment en fait affolant, c'est que on voit en fait le film se présente comme une histoire des origines, des coulisses de fabrication d'Hamlet, le chef-d'œuvre de Shakespeare que tout le monde connaît et qui laisse penser que il aurait quelque chose à voir avec le deuil de son fils qui s'appelait donc Hamnet, à une lettre près. Quelque chose qui est très perturbant devant le film d'abord, c'est le parti pris, c'est un peu de se dire et si on en avait quelque chose à faire de la femme de Shakespeare, donc Agnès, qu'on connaît aussi comme Anne Hathaway, donc la femme derrière l'artiste, le contre-champ de l'histoire, etc. Or, le film fait quand même preuve d'une cruauté totale envers ce personnage de l'épouse, qui est un peu la mégère cantonnée à la marmaille et au foyer, qui est en fait, contrairement à Shakespeare, incapable de sublimer la souffrance qu'elle ressent quant au deuil de son enfant en art. Et donc, il y a quelque chose d'involontairement cruel. Le pire, c'est que le film fait ça à son insu. Toute la construction du film, jusqu'au sommet d'émotion finale, en fait, met en scène quelque part la supériorité de Shakespeare sur sa femme. On a d'un côté l'artiste de génie, qui trouve à transfigurer, voilà, par la noblesse de l'art, les souffrances qui viennent des tripes. Et ça, c'est quand même une notion hyper anachronique aussi de l'art, qui est vraiment post-romantique. En fait, c'est considéré que l'artiste a un écorché vif et qui jette sa subjectivité sur le papier quand il écrit une pièce comme Hamlet. C'est quelque chose qui est vraiment tiré d'une appréhension de Shakespeare par un cerveau du 21e siècle comme le nôtre. Ça, c'est, je pense, assez hors sujet. Et de ce que j'ai entendu du bouquin, il y a quand même une littéralité dans l'interprétation de ce que pourrait être Hamlet dans la biographie de Shakespeare, dans le sens où l'autrice du roman originel, là, dont j'ai plus nom,
Maggie O'Farrell,
voilà, qui co-scénarise le film, je crois assumer une part de jeu romanesque, en tout cas, c'est-à-dire se fonder sur une biographie très fragmentaire de Shakespeare, on sait très très peu de choses sur sa vie conjugale, et jouer à combler les trous en exhibant un peu l'artifice du geste d'écriture. Je crois que c'est quelque chose de cet ordre-là un peu postmoderne, ce que le film ne fait pas du tout.
Adrien Desnouettes.
Je suis très content que Sandra désherbe toute cette matière très complexe parce que vraiment j'aurais pas pu aller jusque là. Moi, j'étais prêt à tout gober, le coup de foudre, la romance, apprendre que oui, il y avait une femme derrière Shakespeare que je ne connais pas très bien. J'ai lu quelques pièces quand j'étais à l'école et c'est tout. Et en fait, j'étais prêt à tout gober, mais jusqu'à la catharsis, qui est plutôt un projet. Enfin, à la fin, le film est vraiment séparé en 3 parties. Une première partie qui est la romance, une deuxième partie qui est les enfants puis ce grand drame puisque Hamnet, qui est donc serait à l'origine de Hamlet, est un enfant qui meurt de la peste très très jeune à 11 ans. Et puis une troisième partie, qui était peut-être la plus intéressante selon moi, qui était l'illustration de ce qu'est la catharsis par l'art, c'est-à-dire se libérer, se purger de ses souffrances en les injectant dans l'art, ce qu'a très bien décrit Sandra. Et surtout, moi, la dernière partie, moi j'étais... En fait, j'ai failli gober le film. J'ai failli me dire, ah d'accord, ok, c'est 2 premiers tiers. Tout ça pour ça, parce qu'en fait, on va nous immerger dans le théâtre du globe de Shakespeare. Mmh. Et là encore, un peu comme ce que je disais tout à l'heure avec le match de Kremlin, d'un strict point de vue documentaire, j'étais trop content. Je frétillais de rentrer là-dedans, parce que combien de fois j'ai lu comment ça se passait à l'époque de Shakespeare, que les gens ne s'asseyaient pas, que les gens criaient sur les acteurs. Je voulais voir ça, en fait. Et je me suis dit, ah, la saleté arrive à ce moment-là. Toute cette espèce de prologue de 2 heures puritain va donner lieu à une grosse explosion de catharsis très sale. Et évidemment, pas du tout. Les acteurs sont toujours aussi propres, toujours aussi glamour, toujours aussi dignes, toujours aussi entiers, solides, intègres, dans leur intégrité sylvestre, où ils faisaient des câlins avec des arbres. Et là, maintenant, ils deviennent des grandes, grandes tragédiens, à la fois sur scène et puis dehors. Alors, c'est beaucoup de pleurs, beaucoup d'images. Alors, franchement, le film ne lésine pas sur les clichés, mais c'est à un niveau ridicule, incroyable. Genre, Shakespeare, par exemple, qui est joué par Paul Mescal, Mescal, déjà, il y a un énorme problème. Shakespeare joué par Paul Mescal.
Non, c'est pas un problème.
Moi, déjà, je suis en train de développer une espèce de détestation de Paul Mescal en deux films.
Mais pourquoi Paul Mescal?
Parce qu'il est beaucoup trop glamour, il est beaucoup trop beau. Il y a une scène de, où, pour purger ses souffrances, il va se baigner torse nu dans une eau glacée. Et puis, à un moment, pour crier sa douleur, il va au bout d'un ponton dans Londres. Et puis, tout le film est comme ça, dans une espèce d'emphase constante qui tire les larmes de manière hyper vulgaire. Moi, j'ai aucun problème avec l'idée d'aller pleurer au cinéma, mais pas pour recevoir des jets de bombe à poivre. Enfin, c'est vraiment, là, c'est je
c'est
trouve
un
ça
une agression,
ouais. Ah, c'est une agression. et du coup, Jesse Buckley et Paul Mescal, qui sont forcément les têtes d'affiche du film, je les déteste de jouer là-dedans. Je les déteste de ressembler à une pub Patagonia. Vous savez, Patagonia, c'est ces vêtements de citadins qui veulent nous montrer qu'ils sont un rapport à la nature et à la montagne. J'ai l'impression que tout le film est comme ça. Tout le film est dans des clichés très académiques sur, vous parliez de post-romantisme, de romantisme, c'est même carrément la caricature du romantisme.
Sandra Onana, comment comprendre ce film dans la filmographie de Chloé Zhao, qui a adapté un Marvel, c'est ça, et qui nous avait fait Nomadland juste avant?
Je connais assez mal, je dois dire, la biographie de Chloé Zhao, mais ce que j'identifie, c'est qu'au moment où elle surgit et qu'il y a quand même une volonté de voir aussi des cinéastes de la diversité au moment où il y a ce mouvement Oscar is so white, elle arrive, cette réalisatrice sino-américaine, et en fait, quand elle fait The Rider, qui est un western, je crois, sous des lumières assez rasantes, très Sundance, etc., elle a, je pense déjà, à mon avis, ce germe du romantisme un peu pasteurisé, un peu naïf, mais qui à ce moment-là est vu comme quelque chose d'assez spirituel. Alors Nomadland, c'est son film sur les travailleurs précaires d'Amazon, je pense son plus politique, qui est arrivé pareil à un moment où c'était un peu un véhicule à récompense. Et puis depuis, elle s'est fait effectivement aspirer par la machine hollywoodienne, on lui fait faire un Marvel. Là, quand elle fait ça, c'est vrai qu'on est étonné par la naïveté de cette imagerie de la nature. Je pense qu'il faut parler de la sorcière, en fait, c'est-à-dire cette épouse qui est un peu montrée au début comme une souillon des sous-bois qui se roule dans la mousse, elle sniffe des plantes, etc. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement naïf et qui, encore une fois, que je trouve cruel du point de vue de l'épouse, parce qu'il la renvoie toujours du point de vue de l'intuition, les prémonitions, la nature. Et donc, à Shakespeare revient le raffinement et la sophistication de faire quelque chose de tout ce qu'elle, elle ne fait que ressentir dans son corps. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser, il y a quand même un des textes les plus célèbres de Virginia Woolf, Une chambre à soi. Imagine une sœur fictive de Shakespeare pour se poser la question de la place des femmes dans l'art et se dire comment est-ce que une femme avec le même génie que Shakespeare n'aurait jamais pu émerger comme une artiste parce qu'elle n'aurait même pas eu une pièce à elle pour penser. Et c'est intéressant quand on voit ce film, c'est pas une sœur imaginaire, c'est sa femme, mais c'est un peu ce que raconte le film, c'est qu'on s'occupe de la marmaille pendant que monsieur fabrique des chefs-d'œuvre. Je rejoins l'idée que cette scène de catharsis de théâtre, en fait, elle m'est presque sympathique, en fait. C'est vrai que là, en termes de braquage émotionnel, c'est pas une arme qu'on met sur la tempe, c'est vraiment les violons de Max Richter, quoi. C'est vraiment, on est en épilepsie de larmes, etc. C'est quand même gonflé de nous montrer des spectateurs en larmes pour déclencher ce même sentiment chez le spectateur. C'est quand même effectivement très bourrin. Je pense que ce qui m'est sympathique, c'est justement cette partie romantique de Paul Mescal avec une boucle d'oreille qui joue Shakespeare. Non. C'est le précepteur de latin qui drague la sorcière de la forêt. Parce qu'en fait, le film, on l'a pas dit, je crois que le nom de Shakespeare n'est pas prononcé avant le dernier tiers du film. On pourrait croire, on le sait parce qu'on a eu le synopsis, on sait ce qu'on voit, que le film, en fait, est une romance. Ça raconte comment un couple, comment d'une romance on passe à la construction d'un foyer et comment le mal rôde parce qu'on va devoir traverser une épreuve ensemble. Et pendant les deux tiers du film, on pourrait se dire que c'est pas Shakespeare et que c'est deux acteurs qu'on a envie de voir. Paul Mescal, qui est le jeune premier avec Josh O'Connor en ce moment aussi. Effectivement, il était dans Gladiator, il est un peu partout, c'est Shakespeare maintenant. Et s'il y avait pas, effectivement, et moi je vois ça, la bêtise involontaire de ce scénario qui ne se rend pas compte qu'il humilie quasiment Jesse Buckley, que je trouve super par ailleurs, dans ses oripeaux d'épouse éplorée, en organisant le triomphe du génie de Shakespeare.
Adrien Desnouettes ?
Ouais, j'ai moins, pour le coup, j'ai moins envie d'incriminer le scénario qui, une fois encore, ne me dérange pas. J'étais prêt à tout gober, j'étais prêt à tout apprendre, j'étais prêt à tout prendre.
Non, c'est vraiment pas grand chose.
Non, si, bah si, quand même. Enfin, je veux dire, c'est très fictionné, c'est très inventé, donc c'est presque une libre interprétation. Et c'est ce que doit être un biopic. Et là, ça m'intéresse. Enfin, je veux dire, sur le plan des intentions, j'ai aucun problème avec le film. C'est vraiment la manière de faire. C'est vraiment. Enfin, j'ai du mal à me retirer de tous ces clichés qu'on m'a imposés. J'ai du mal à me retirer. Je vous disais, moi, Paul Mescal, j'ai un gros problème, c'est que j'ai quand même. Effectivement, c'est un des jeunes premiers en ce moment avec d'autres acteurs qu'on voit, qu'on retrouve un peu partout. Et moi, c'est cette espèce de sérieux, de cette espèce de quête de monumentalité constante. On va jouer des hommes fragiles et en même temps, on va réclamer en contrepartie d'avoir sa scène torse nu. C'est toujours un peu pareil. C'est toujours la même glamourisation qui, sous prétexte d'être moderne ou au goût du jour, en fait, ne sert toujours que les mêmes mecs, toujours les mêmes acteurs qui sont là pour se mettre en valeur. Vraiment, pour moi, c'est un film qui a la gloire de ses acteurs, à la gloire de leur glamour, à la gloire de leur quête de prix. Et puis Chloé Zhao est la même chose en réalisatrice, c'est-à-dire tourne d'emblée un produit de cinéma qui a été vendu comme une machine à récolter des prix, une moissonneuse-batteuse de prix. Ce film est exactement produit comme ça. Il est repéré par Spielberg, il est coopté par Sam Mendes. Qui pourrait nous rapporter des prix? Qui pourrait le faire? Chloé Zhao, qui c'est un peu le rôle de l'emploi. Puis on va aller chercher Jesse Buckley, qui a un peu le vent en poupe et qui avait déjà reçu des Golden Globes. Paul Mescal, qui a le vent en poupe aussi, qui est un peu le Pedro Pascal avec 25 ans de moins. On va. Je sais pas. Je vois tout le projet, je vois tout le marketing et je me fais agressé par ce marketing-là. C'est pour ça que moi, les mots qui me viennent à la bouche, c'est publicité pour tout le monde. Publicité, je ne vois que des pubs partout.
Il y a un côté quand même assez fantastique dans la mise en scène, dans les imageries, le vocabulaire de Zhao. Non? Bon, tout le monde le met sur le ciel.
Oui, mais sorcière, parce qu'aujourd'hui, faut traiter la féminité comme ça, dans cette intégrité sylvestre,
à cette manière. Féministe.
Oui, Mona Cholesque, si j'étais un peu méchant. Il y a vraiment ce côté.
Mais c'est de l'image d'Épinal, en fait. L'image d'Épinal de la famille du bonheur qui se roule dans l'herbe. C'est vrai que ça aussi, on soupçonne que c'est un anachronisme. Moi, je ne sais pas comment se comportaient les pères de famille à l'époque élisabéthaine. Je doute qu'ils étaient aussi investis et dans les jeux, l'éducation des enfants. C'est vrai qu'il y a des plans où la famille s'embrasse dans une large étreinte comme ça, sur fond de chaumière, avec les petites fleurs.
Ouais. Après, là, il y a un truc qui est pas mal quand même. Et j'ai cru qu'ils iraient là-dedans. Et ils y vont pas. C'est que justement, au moment des naissances, au moment de la vie de couple, l'éducation, en fait, Shakespeare a le beau rôle. C'est-à-dire, c'est celui qui arrive pour jouer avec les enfants, leur apprendre deux, trois trucs et repartir faire sa carrière. Là, je me suis dit, ah, ça va se fissurer, il va se passer quelque chose, ils vont devenir sales, ils vont se détester. Pas du tout. Ils finissent par se réconcilier dans un grand moment cathartique, tout aussi glamour et marketing que le reste.
Eh bien, je pense que Amnette est rhabillée pour l'hiver. Merci beaucoup. Merci Sandra Onana. Merci Adrien Desnouettes. Merci à vous qui nous écoutez. Bien sûr, vous retrouvez les références de tous les films dont nous avons parlé aujourd'hui sur la page des Midi de Culture. Merci également à Boris Pinault pour la programmation de cette émission. Très belle programmation d'ailleurs, Boris. Restez avec nous, on revient juste après ça.